David m'avait demandé de prêcher sur la mortification, mais n'étant peu satisfait de ce que j'avais préparé, je vous propose ce matin en remplacement une courte méditation sur les cinq premiers versets de l'épître aux Galates. Quelques mots d'introduction sur l'importance de cette épître aux Galates, premièrement pour nous en tant que chrétiens et deuxièmement dans l'histoire de l'Église. Premièrement, pour nous en tant que chrétiens, elle est une source de liberté intérieure. Elle nous apprend à nous défaire d'une mauvaise habitude, celle de croire que notre salut dépend de ce que nous faisons. Elle établit clairement que notre salut dépend de ce que Christ a fait. Un commentateur, Findlay, a appelé l'épître aux Galates la grande charte de la liberté chrétienne. Et John Stott, qui a fait un commentaire, a intitulé son commentaire Appelé à la liberté. Deuxièmement, sur le plan de l'histoire de l'Église, cette épître est aussi très importante. Sans cette épître, la réforme n'aurait peut-être jamais eu lieu. Le 31 octobre 1517, Luther venait d'achever son cours sur Galate. Et on peut dire que c'est sous l'impulsion de cette étude qu'il est allé clouer ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, ce qui a été le point de départ de la réforme. Un théologien américain, Myril Tenney, dit ceci: Si l'épître aux Galates n'avait pas été écrite, le christianisme ne serait qu'une secte juive de plus et la pensée du monde occidental serait encore plongée dans la barbarie et le paganisme. Le cœur de l'enseignement de Galates, c'est le salut par grâce, par la foi seule, sola gratia, sola fide, dans le langage réformé. Les hommes ne peuvent pas être sauvés par leurs œuvres, mais seulement par la grâce, c'est-à-dire gratuitement. Et justement, à propos de gratuité, de la gratuité du salut, il faut souligner un événement, un petit fait, disons, historique. C'est que pendant que Luther faisait son commentaire, son étude, son cours sur Galate, le frère Tetzel, un dominicain, était chargé par le clergé de Rome de vendre des indulgences pour récolter de quoi reconstruire la basilique Saint-Pierre de Rome. En quoi consistaient ces indulgences? C'était des sortes d'actions cotées à la bourse de Rome. Le clergé romain promettait aux gens qui les achetaient d'obtenir le pardon de leurs péchés. Ainsi, on pouvait acheter le pardon sans avoir à se repentir, donc sans avoir besoin de Christ. Et pour motiver les pécheurs à donner leur argent, Tetzel disait: Sitôt que sonne votre obole, du feu brûlant, votre âme s'envole. Voilà en gros le contexte dans lequel l'avènement de la réforme a eu lieu. Nous venons maintenant au texte de Galates. Donc notre méditation portera sur les cinq premiers versets du chapitre 1. Je lis. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le message comportera trois points. Premier point, l'autorité apostolique de Paul a sa source en Dieu et en Jésus-Christ. Deuxième point, toute grâce et toute paix véritable ont leur source en Dieu et en Jésus-Christ. Et troisième point, ce qu'est vraiment la liberté chrétienne. D'abord, le premier point, l'autorité apostolique de Paul a sa source en Dieu et en Jésus-Christ. Verset 1, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Il est d'une importance capitale pour le christianisme que Paul ait établi de manière inattaquable l'autorité de son apostolat. Et son apostolat repose directement sur l'autorité de Christ. La conséquence est qu'aucun chrétien ne peut se permettre de dire, comme on peut l'entendre dans certains milieux, Paul disait ceci ou cela, mais il se trompait. Quoi qu'il en soit, pour Paul, établir son autorité comme venant directement de Christ, c'était la seule manière de rendre efficace son intervention auprès des Galates. Efficace aussi pour nous, bien sûr, car sa rencontre avec Christ ressuscité nous est racontée trois fois dans le livre des Actes, Actes 9, Actes 22 et Actes 26. Les églises de Galatie étaient infiltrées par de faux apôtres, plus exactement de faux apôtres judaïsants qui cherchaient à remettre les Galates sous le joug de la loi. La particularité d'un vrai prophète est que Dieu lui adresse cette vocation, ce n'est pas le prophète qui l'a choisi. C'est Ron Berger qui a dit ça. Voilà la différence donc entre Paul et les faux prophètes infiltrés dans les églises de Galatie. Le mot apôtre vient du verbe grec apostello qui veut dire envoyé. Paul est envoyé par Christ en personne, tout comme les autres apôtres. Et être apôtre, c'est être envoyé par Christ en personne. La notion de succession apostolique qui règne dans le catholicisme romain n'a donc aucune base biblique. Et si vous rencontrez des gens, car il en existe encore aujourd'hui qui se prétendent apôtres ou faire partie d'une église apostolique, soyez sur vos gardes. Quelques mots sur l'histoire des églises galates. Lors de son premier et de son second voyage missionnaire, Paul, avait implanté plusieurs églises en Galatie. On voit cela dans Actes 13 et Actes 14. Et lors de son troisième voyage missionnaire, Actes 18, 23, nous dit qu'il repartit et parcourut de lieu en lieu la région galate de la Phrygie en affermissant tous les disciples dans la foi. Le premier sens du mot galatès n'est pas galate, mais gaulois. Et il est intéressant de savoir que les Galates étaient des descendants des Gaulois, donc des Celtes. Et même d'après le géographe grec Strabon, qui était contemporain de Jésus, c'était des Celtes venus de Provence, donc des gens versatiles, c'est-à-dire changeants. Dans son livre La guerre des Gaules, Jules César dit d'eux, ils sont inconstants dans leurs décisions, prompts à changer d'idée et peu fiables. En tout cas, c'est ce qu'on constate dans le livre des Actes, au chapitre 14. Le matin, les Galates de Lystre, qui est en Galatie, sont sur le point d'adorer l'apôtre Paul et Barnabas comme des dieux, et l'après-midi, ils lapident Paul. Paul avait amené de nombreuses âmes au salut et fondé plusieurs églises en Galatie. Mais dès qu'il a eu le dos tourné, les Galates se sont mis à suivre les faux docteurs judaïsants et leurs fausses doctrines sur le salut. Dès sa conversion, Paul a toujours montré une grande compassion pour les âmes qui se perdent. Souvenons-nous que dans l'Épître aux Romains, il dit qu'il préférerait être anathème, ce qui veut dire être maudit et aller en enfer, si cela pouvait amener d'autres âmes au salut. On voit ça dans Romains 9, 3. Et il dit la même chose ici au verset 8. Il dit, même si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà pourquoi Paul insiste tant sur l'autorité de son apostolat. Les Galates sont menacés par des prédateurs spirituels et ces prédateurs menacent leur église, plusieurs églises de Galatie. Paul établit aussi que l'autorité, aussi du même coup, on peut dire que l'autorité de Christ est égale à l'autorité de Dieu. Mais ça, c'est une vérité qui est omniprésente dans les évangiles. Avant l'arrivée de Jésus, les religieux juifs, quand ils parlaient le Dieu, disaient souvent « Rabbi un tel a dit, Rabbi un tel a dit ». Mais quand Jésus entrait dans une synagogue, il déclarait « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis ». Christ était donc la véritable autorité, celle qui vient de Dieu. D'ailleurs, Paul ajoute, verset 1, « Non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ ». Puis il ajoute « Et Dieu le Père », car Dieu le Père et Dieu le Fils sont impliqués dans le plan de salut. John Stott dit « À la croix, la volonté du Père et celle du Fils sont en parfaite harmonie ». Maintenant, pourquoi est-ce que Paul ajoute qu'il a ressuscité des morts? Les autres apôtres avaient vécu avec Jésus. Ils avaient reçu son enseignement et ont été formés par lui pendant les 3 ans de son ministère. Mais Paul n'a pas suivi ce cursus. D'ailleurs, on ne sait pas trop si Paul avait eu ou non l'occasion de voir Jésus lors de son ministère terrestre. Mais cela est devenu sans importance. Pourquoi? À cause de la résurrection, justement. Et Paul insiste là-dessus. Par Jésus-Christ, c'est toujours verset 1, par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Dans 2 Corinthiens 5, 16, Paul déclare « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Paul n'a donc peut-être pas connu le Christ de son vivant sur la terre, mais il a connu le Christ ressuscité. Il s'agit d'une connaissance plus excellente et qui donne un fondement inébranlable à son apostolat. Paul ajoute au verset 2 « Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. » Ceci contribue fortement aussi à renforcer l'idée de son ministère. Paul n'est pas une sorte de gourou solitaire qui sortirait d'on ne sait pas trop où et qui travaille pour son propre compte et qui aurait mis au point sa propre doctrine. Tous ces éléments doivent être une mise en garde pour les églises locales. Aujourd'hui encore, comme au temps des Galates, les prédicateurs spirituels peuvent chercher à s'infiltrer et à prêcher alors que leur autorité ne vient pas de Christ, ni leur doctrine d'ailleurs. Nous passons maintenant au second point. Toute grâce et toute paix véritable ont leur source en Dieu et en Jésus-Christ. Verset 3, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. » Luther disait, « Ces deux termes, la grâce et la paix, comportent en eux-mêmes tout le contenu du christianisme. La grâce remet le péché, la paix met la conscience en repos. » Fin de citation. D'abord, nous avons la paix parce que la culpabilité liée à notre péché a été ôtée. Il est dit, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Ensuite, la vraie paix est inaccessible aux possibilités humaines, car elle exige que nous soyons arraché de ce monde mauvais dont Satan est momentanément le prince. Attention, quand nous disons ce monde, le texte dit le présent siècle mauvais, il ne s'agit pas seulement du monde mauvais qui est à l'extérieur de nous, il s'agit aussi du monde mauvais qui est à l'intérieur de nous. C'est le monde de la nature pécheresse qui demeure encore en nous. Mais à la croix, Christ a aussi brisé la puissance du péché. Nous pouvons alors venir à lui par la foi si nous reconnaissons humblement que nous sommes fatigués et chargés par nos péchés et nos tentations. En fait, c'est la seule solution pour les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut trouver en lui-même la force de réaliser cet exploit, s'arracher de toutes les séductions extérieures du monde et s'arracher à toutes ces convoitises intérieures. C'est humainement impossible. Et d'ailleurs, les hommes irrégénérés ne le désirent aucunement. Ils ne veulent pas être sevrés de ce monde, c'est-à-dire privés de ce monde, ni d'ailleurs de leurs péchés. Au contraire, ils s'y accrochent de toutes leurs forces et rien ne pourra les en déloger si ce n'est la grâce qui est en Christ. Avant de passer au dernier point, juste une remarque sur le mot arracher, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Le verbe grec a un sens très fort. C'est délivrer quelqu'un en l'arrachant avec violence à une situation désespérée. Dans Actes 7, 34, le même mot, exaireo, est utilisé pour évoquer la délivrance du peuple hébreu de son esclavage en Égypte, ou encore pour exprimer la délivrance de Paul au moment où, dans Actes 23, la foule enragée était sur le point de le lyncher. On peut donc affirmer sans crainte que quand Christ nous dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre », il le dit parce qu'il le fera et qu'il est le seul à pouvoir le faire. Ceci nous amène à notre troisième et dernier point, ce sera la conclusion aussi, ce qu'est vraiment la liberté chrétienne. La promesse que Christ s'est donnée lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais implique que quand nous venons à lui pour chercher en lui notre salut et notre délivrance, que nous nous donnions à lui comme lui s'est donné à nous, sans réserve. Il faut que nous lui fassions totalement confiance, quoi qu'il arrive. Si nous nous donnons à Christ par la foi, alors non seulement nos péchés seront pardonnés, mais en plus, selon sa promesse, nous serons réellement libres. Arracher du présent siècle mauvais signifie que nous serons libérés de l'emprise du péché, libérés de l'emprise du monde, libérés de l'emprise de Satan et libérés de l'emprise de la mort. Car toutes ces choses ont été vaincues par notre Sauveur, par la puissance de sa mort et par la puissance de sa résurrection. Voici maintenant pour conclure comment Martin Luther décrit cette liberté extraordinaire du chrétien. Je cite: Satan a coutume de brandir la loi pour nous terrifier, de nous accabler avec la conscience de notre péché, notre vie si mal vécue, la colère et le jugement de Dieu, l'enfer et la mort éternelle, pour nous entraîner ainsi au désespoir. C'est pourquoi, lorsque je vois l'homme assez contrit, pressé par la loi, terrifié par le péché et assoiffé de consolation, il est temps pour moi d'écarter de ses yeux la justification par la loi et de lui proposer par l'Évangile la justification gratuite qui est en Christ. C'est ainsi que les deux choses demeurent. Tant que nous vivons, la chair est accusée, elle est harcelée, elle est contristée et écrasée par l'impossibilité d'être justifiée par la loi, sous-entendu la loi des œuvres. Mais l'esprit règne, il se réjouit et il est sauvé par la justification en Christ qui siège dans les cieux, qui a aboli la loi, qui a foulé aux pieds le péché, la mort et tous les autres maux.